Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand Besançon et son double du jour, Barbara Schwartz. Ça a été décidé tout à l'heure, réalisé par Hélène Bizio et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Tristan Gratalon. La gourmandise ce matin est une affiche de 1899 offrant au regard des curieux un homme en costume noir et nœud papillon blanc, ligoté sur une chaise et encerclé par un orchestre spectral de squelettes. Les carcasses musiciennes jouent de la guitare ou du tambourin, agitent des cloches, gesticulent fébrilement, un pandémonium qui ne semble pas inquiéter outre mesure l'homme ligoté, qui va jusqu'à prendre une sorte de pose photographique. L'homme en effet n'a pas peur, il a l'habitude de converser avec les morts, comme le confirme le surnom qu'il s'attribue en lettres flamboyantes au-dessus des spectres, Hellman, le Napoléon de la nécromancie. Il s'agit d'une de ces lithographies en vogue entre la fin du 19e siècle et le début du 20e qui faisait la publicité d'un illusionniste. Nous mettrons un lien sur le site permettant de la voir et si l'un d'entre vous sait qui était Hellman avec deux N, qu'il n'hésite pas à nous écrire. Nous sommes le 24 décembre, jour terrible pour les sensibles. J'ai donc décidé de faire une émission spéciale pour s'extraire du réel. On parlera beaucoup de ce qui manque de plus en plus, la magie. Notre apothicaire de l'âme, ancien conservateur au musée de l'armée à Paris, est illusionniste et s'occupe des archives de l'entrecave. Il est normal que ce nom énigmatique ne vous dise rien. Voici ce qu'on peut lire sur le site qui porte ce nom. L'Entrecave est une association particulièrement discrète et confidentielle qui regroupe des savants, des érudits et des experts des questions complexes, irrésolues. Depuis sa création à la fin du XVIIe siècle, elle étudie méthodiquement les phénomènes mystérieux auxquels l'État ne peut plus apporter de réponse officielle. Je saute un paragraphe. Depuis une dizaine d'années, les archives de l'Entrecave ont été confiées à un nouveau gardien pour qu'il en fasse le classement et l'inventaire. Cet archiviste, historien-chercheur, familier de l'occulte et du surnaturel, a été autorisé à porter à la connaissance d'un public choisi quelques-unes de ses archives. Cet individu semble se trouver en face de moi. Saluons-le sans mystère. Antoine Leduc, bonjour.
Bonjour Eva.
Quand on est illusionniste, est-ce qu'on peut faire disparaître la mélancolie de soi ?
On essaye de temps en temps, mais je pense que j'aime bien aussi la faire apparaître de temps en temps.
Donc vous la convoquez, la mélancolie, c'est quelque chose dans laquelle vous pouvez vous complaire ?
Oui, je pense que je suis quelqu'un d'un peu mélancolique et par moments, ouais, on a besoin de ça. Je pense que ça aide à faire sortir des choses. Ouais, je pense que je suis quelqu'un de plutôt mélancolique. Ouais, et ça, quand j'écris, par exemple, j'aime bien avoir la mélancolie pas trop loin de moi. Ça peut aider. Ouais.
Vous écrivez des choses autobiographiques ou de fiction ?
Non, j'écris justement tout ce qui concerne les archives de l'Entrecave. Donc, je classe certains dossiers et puis les dossiers qu'on choisit de montrer au public, ceux-là, je les écris d'une façon un peu théâtral, quoi, parce que le but c'est de les rendre accessibles à un public qui n'est pas forcément connaisseur.
Mais le spectre de l'histoire va traverser presque tous vos remèdes, donc il y a une mélancolie historique. Quoi qu'il arrive, vous allez voir, j'annonce le sommaire des réjouissances et de l'au-delà aux auditeurs. Pas toujours, d'ailleurs, on va en parler. Il va être beaucoup question de réel, d'illusion, de faux, de vrai. Et puis surtout, je pense qu'on n'aura pas la réponse. Voilà, je préfère l'annoncer tout de suite et c'est ce qui est mieux. Dans quelques instants, vous, Antoine Leduc, vous allez convoquer Macbeth, Edward Norton, Mademoiselle Lenormand, Maître Gonin, Vidocq, un musée secret à Bruxelles, des danses de couple, des mots d'esprit, des légendes de la magie et des disparitions, juste après un titre dont l'énonciation rend stone, Forever Pavot, la soupe à la grolle.
Tu me tiens au corps. L'entends-tu?
Remède à la mélancolie sur France Inter, en compagnie de l'illusionniste Antoine Leduc, nous sommes aux frontières du réel.
Je veux que vous sachiez tous que chaque tour que vous avez vu dans mon théâtre n'était qu'illusion. Ce sont des trucages. Rien n'est réel. Je ne peux pas ramener à la vie un être qui est mort. Je n'ai reçu aucun message en provenance de l'au-delà. Je vous présente mes excuses si je vous ai donné de faux espoirs. Ma seule intention était de vous divertir. Rien de plus.
2006, l'illusionniste de Neil Burger avec Edward Norton, Paul Giamatti et Jessica Biel. C'est la libre adaptation de la nouvelle Eisenheim l'illusionniste de l'écrivain américain Steven Milhauser qui co-signe le scénario. Ça se passe à Vienne, dans les années 1900. Est-ce que vous pouvez faire une ébauche du synopsis ?
Donc ça raconte l'histoire de ce magicien, donc la fin du 19e et début 19e siècle, qui rentre à Vienne après probablement avoir été initié aux mystères les plus sombres, les plus noirs de la magie et de l'illusionnisme pendant une quinzaine d'années. Il rentre à Vienne et au cours d'un de ses spectacles, il retrouve son amie d'enfance qui, elle, a bien grandi aussi et est destinée à devenir la femme du prince viennois de l'époque qui s'apprête à succéder à son père, et donc chacun fait partie d'un milieu, et les deux n'ont rien en commun.
Il est fils de paysan.
Elle est aristocrate, elle est duchesse, et bien sûr, ils vont essayer de se retrouver malgré toutes les embûches qu'on va mettre sur leur chemin.
Alors, Léopold, qui est son rival principal de la famille princière, va le jalouser de plus en plus, non seulement car il y a l'enjeu amoureux, évidemment, de la duchesse, mais surtout parce que l'illusionniste, lui, a un talent acquis par la pratique, alors que l'autre n'a que son sang pour revendiquer son statut. Tout va s'articuler autour de ça.
Non, exactement, c'est une sorte de combat de coq entre d'un côté l'héritier, celui qui est bien né, et puis le magicien qui lui a passé des années à peaufiner son art, chacune de ses prestations, et qui grâce à ça séduit cette fameuse duchesse von Teschen qui est jouée par Jessica Biel.
Il y a un acteur extraordinaire dans ce film qu'on emploie dans un contre-rôle, puisque d'habitude il fait des rôles plutôt comiques, c'est Paul Giamatti qui fait l'inspecteur de police Hull, qui est fidèle au prince et en même temps qui espionne le magicien et qui éprouve de l'admiration pour lui. Lui, c'est un peu l'aspect scientifique, il est sceptique pendant les trois quarts du film, et puis il va commencer à douter, comme le spectateur, car le tour de force de ce film, c'est que tous les tours ont été inspirés par des tours réels faits par les plus grands illusionnistes
Absolument,
de l'histoire.
Ouais. Oui, alors cet inspecteur, il est un peu fasciné parce qu'il est lui-même illusionniste amateur, donc il essaye de se glisser dans les coulisses pour connaître les trucs qu'il voit sur scène et qu'il ne comprend pas. Donc il a ce point de vue pour lui, voilà, tout n'est que trucage. Et puis plus on avance dans l'intrigue et plus il doute parce que ce qu'il voit sur scène, ce à quoi il assiste, lui paraît véritablement impossible, quoi. Et donc il doute et il va se laisser entraîner dans cette illusion qui est construite de toutes pièces par l'illusionniste.
Il y a une scène que vous appréciez particulièrement, c'est la scène du tour de l'Oranger, qui était un tour pratiqué au XVIIIe siècle en Autriche par le physicien et illusionniste français Nicolas-Philippe Ledru, alias Falkenstein, qui a été repris ensuite par Jean-Eugène Robert Houdin, voilà. Le père de la magie moderne. Est-ce que vous pouvez décrire ce tour ? Il est très impressionnant.
Oui. Alors Robert Houdin le présentait donc sur scène, il empruntait la bague d'une spectatrice qui disparaissait, il l'introduisait dans le canon d'un pistolet, il tirait sur scène et puis la bague disparaissait. Ensuite on a porté sur scène cette rangée mécanique qui était un automate qui était remonté et puis quand le mécanisme se mettait en marche, l'oranger fleurissait et produisait ses oranges. Et à la fin, deux petits papillons sortaient du dessus de l'oranger en battant des ailes et ils tenaient un mouchoir au centre duquel était attachée la bague qui avait été empruntée à la spectatrice et qui venait de réapparaître à cet endroit-là. Et dans le film illusionniste, donc tout ça est recréé avec des images de synthèse. phrase. Et c'est justement, c'est ça qui m'a touché. Il présente ça, c'est une réflexion sur le temps. Il parle de la nature du temps, qu'on aimerait parfois ralentir, parfois accélérer. Et puis, il prend un pépin d'orange qu'il plante dans un seau de terre. Et on voit, pendant quelques instants, cet oranger qui sort de terre, qui pousse, qui fleurit, et les oranges apparaissent. Et le fait que ça a été très bien refait avec des images de synthèse, je pense que ça donne aux spectateurs du 21e siècle quasiment la même impression que celle qu'a pu produire cet oranger automate sur les spectateurs du 19e siècle.
Edward Norton a exécuté tous les tours, il s'était formé à l'illusionnisme pour ce film et c'est vraiment impressionnant.
Oui, absolument, il réalise la plupart des manipulations, il les réalise lui-même sur scène. Oui.
L'apprenti sorcier, composé par Paul Dukas en 1897 et popularisé par le premier long métrage de Walt Disney, Fantasia, une introduction musicale à votre idée consolatoire, Antoine Leduc. Le mot magie, qui se trouve au centre du mot imaginaire, comme vous le faites remarquer, et tout ce qu'il revêt. Est-ce qu'on peut commencer pour les auditeurs avec un petit peu de vocabulaire? Il y a beaucoup de termes, il y a magicien, prestidigitateur, illusionniste, battleur, escamoteur. Quels termes faut-il retenir? Quels sont les principaux? Quelles sont les différences?
Alors les différences, le battleur c'est un terme qui est plus vraiment employé aujourd'hui, c'était un magicien de foire
au Moyen-Âge
et puis un peu après, je pense que ça continue jusqu'au 18e siècle. L'illusionniste c'est quelqu'un qui pratique l'illusionnisme. Et le magicien, on peut être magicien sans être illusionniste. Il y a des poètes, des cinéastes, des dramaturges qui sont des magiciens. Au cinéma, on peut penser à Cocteau, par exemple, qui était véritablement un magicien, sans forcément être un illusionniste.
Comment vous l'entendez alors dans ce cas-là? C'est un magicien par la puissance poétique?
Oui, par l'expérience qu'il va faire ressentir à ses spectateurs, oui, là où il les emmène.
Alors étymologiquement, la magie désigne l'art des mages, qui était apparemment une caste de devins, les Mèdes, un peuple de l'Iran ancien qui cultivait l'astrologie et les sciences ésotériques. L'empire de ce peuple a commencé au début du 7e siècle avant Jésus-Christ. Comment êtes-vous tombé dans le monde de la magie ?
Dans le monde de la magie, le premier souvenir de magie qui me reste aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'illusionnisme pour le coup justement, c'est un spectacle son et lumière qui a eu lieu dans les ruines d'un château auquel m'avaient emmené mes parents quand j'étais plus jeune. Et cette histoire racontait justement, c'était une histoire fantastique qui racontait le périple d'un chevalier qui partait à la croisade, qui était attrapé pendant les croisades, qui était bien sûr condamné à mort, et qui, magiquement, en une nuit, se retrouve transporté dans la forêt, là où avait lieu le spectacle, et où il retrouvait le lendemain sa chair et tendre qu'il avait laissée avant de partir à la croisade. Et en assistant à ça, étant enfant, j'ai vraiment eu l'impression que ça s'était produit sur mes yeux, quoi. Ce voyage dans l'espace, ça m'a paru très très réel, quoi. Et c'est le premier souvenir de magie qui me vient à l'esprit, oui.
Il y a un paradoxe autour de la magie. On se réjouit évidemment, elle fascine universellement depuis la nuit des temps, puisqu'on se réjouit de voir les lois de la physique suspendues. Et en même temps, c'est basé sur un trucage, donc une tromperie, un mensonge. Il y a un pacte magique qui se crée au début. Évidemment, là je dis ça, alors il y a plein de gens qui vont vraiment être furieux contre moi en train de dire « vous ne pouvez pas dire ça ». Mais justement, c'est la question que je pose. D'abord, est-ce que ça fascine parce que le réel est trop décevant? Et deuxièmement, vous qui êtes initié au mystère de l'illusionnisme, est-ce que vous n'êtes pas justement plus déçu que les autres?
Plus déçu, non, parce que... Non, ce qui compte, c'est d'être capable de toujours ressentir la magie et de la redécouvrir là où on l'attend pas, quoi.
Vous vous émerveillez encore?
Absolument. Absolument, oui, ça m'arrive quand je vais, ça peut m'arriver quand je vais au cinéma, quand je vais au théâtre, dans un musée, face à certains objets qui dégagent qui ont une puissance évocatrice vraiment importante. Oui, ça m'arrive encore. Oui.
Mais pas dans les tours de magie.
On peut être bluffé par il y a des choses qui sont excellentes, très bien faites, qui ont eu des gens qui ont une maîtrise technique impeccable. Et si, certains arrivent à vous emmener au-delà du truc, ouais, bien sûr.
Vous êtes en particulier intéressé par la magie des légendes parisiennes. Vous citez entre autres Mademoiselle Lenormand, Maître Gonin et Vidocq. Alors on va dire un petit mot sur chaque. Mademoiselle Lenormand, c'est cette nécromancienne et cartomancienne née en 1772. Elle a eu une vie très surprenante.
Oui, c'est la plus célèbre voyante parisienne du 19e siècle. Elle doit sa célébrité à l'amitié que lui portait Joséphine, l'impératrice, la femme de Napoléon. Et puis, elle a exercé ses talents pendant très longtemps, de Louis XVI à Louis-Philippe, au cours d'une carrière de plus de 50 années, quasiment. Et elle a été la voyante de toutes les têtes couronnées d'Europe. Ouais, ouais.
Et de Robespierre aussi.
De Robespierre aussi, oui, parce qu'elle a commencé sa carrière assez tôt. Elle est arrivée à Paris quelques années avant le début de la Révolution et elle a commencé à tirer les cartes, effectivement, aux principaux personnages de la Révolution française. Ouais.
Alors, son cabinet de voyance devenait un endroit très mondain. Elle frayait aussi avec le ministre de la police, Joseph Fouché, oui. À tel point qu'on l'accusait aussi d'être un grand centre de renseignement. Elle était mieux informée que la police elle-même.
Absolument, oui. Il y a une anecdote. Enfin, ça lui a d'ailleurs valu la prison. On sait que Joséphine ne pouvait pas avoir d'enfant. Et à un moment, la question de la descendance de Napoléon se pose. Et Joséphine ne pouvant pas avoir d'enfant, on commence à évoquer l'idée d'un divorce entre Napoléon et Joséphine. Ça rendait Joséphine absolument, très malheureuse, elle pleurait beaucoup. Et Mademoiselle Lenormand était au courant de ça, mais elle était au courant de l'imminence de l'annonce de Napoléon à Joséphine. Et en fait, c'était un véritable secret d'État. Il y avait quasiment que Napoléon et Fouché qui étaient au courant. Et quand Fouché apprend que Mademoiselle Lenormand a l'air d'être autant au courant que lui, il a fait mettre en prison à ce moment-là pendant quelques jours, le temps que Napoléon fasse son annonce tranquillement, puis après elle ressort.
Elle a d'ailleurs régulièrement été emprisonnée, ça a toujours accru sa popularité. Elle avait prédit qu'elle vivrait jusqu'à 124 ans, elle s'est trompée.
Oui, elle s'est trompée de quelques années, mais ouais. c'est le propre de ces gens-là d'être en perpétuel voyage dans le temps et dans l'espace, qui fait que elle s'est trompée de quelques dizaines d'années. Mais elle avait par contre prédit que les médecins la tueraient, et c'est ce qui s'est passé.
C'est une prédiction assez facile finalement.
Assez facile, mais elle avait quasiment jamais fait appel à un médecin de toute sa vie, donc c'était assez juste aussi.
Autant pour moi. Elle utilisait des jeux de cartes classiques à enseigne française, et ouais. Après sa mort, on a fait un jeu de cartes très très beau, auquel on a donné son nom.
Oui, en fait, elle était extrêmement célèbre, ce qui fait que tout de suite après sa mort, son nom devient quasiment une marque, et les quartiers s'emparent de son nom et produisent des jeux qui sont des jeux de société à l'époque, des jeux divinatoires, auxquels on va accoler le nom de Mademoiselle Lenormand. Et donc, depuis, elle est morte en 1843, depuis quasiment 1845, on produit des jeux dits de Mademoiselle Lenormand, et aujourd'hui encore, quand vous allez dans une librairie ésotérique pour acheter un jeu de divination, vous pouvez acheter le jeu de Mademoiselle Lenormand.
Qui est très beau.
Qui est très beau, oui.
Alors, Maître Gonin, ce prestidigitateur à la cour de François Ier au XVIe siècle, un petit mot sur lui. Lui est très mystérieux, on a eu du mal à trouver des choses sur lui.
Oui, Maître Gonin est très mystérieux. En fait, c'est une lignée, et il y en a plusieurs qui ont porté ce nom-là. Et celui dont on parle un peu dans les archives de l'Entrecave, c'est le dernier de la lignée qui, lui, était au XVIIe siècle, qui se serait produit jusqu'à la table de Louis XIV et qui était un expert de ce tour, qui est un grand classique de l'illusionnisme, qui est le tour des gobelets. Et il avait une façon très particulière de le faire, il le faisait avec des gobelets en argent. Il y a d'ailleurs une tradition qui s'est un peu perpétuée dans le milieu de l'illusionnisme, que quand un élève a acquis un niveau correct, son maître lui offre des gobelets en argent.
Le dernier, Eugène François Vidocq, alors lui, délinquant, puis bagnard, puis policier, puis détective privé, il a inspiré Balzac, Hugo, extraordinaire personnage.
Extraordinaire personnage, il a énormément de facettes, c'est un Arrageois d'origine, il est né à Arras en 1775, il est très turbulent en étant jeune, il s'engage dans l'armée, il déserte, tout ça l'amène en prison puis au bagne. Et quand il est au bagne, il a l'idée, parce que c'est un audacieux, il a l'idée de proposer au préfet de police de travailler pour lui depuis l'intérieur du bagne. Et donc, en fait, c'est lui qui va créer la méthode d'infiltration, en fait, qui est encore utilisée aujourd'hui par la police. Ça porte ses fruits, donc on le laisse créer ce qu'il appelle la brigade de sûreté, qui est une brigade de police qui était composée uniquement d'anciens bagnards qu'il avait choisis lui-même, qui avaient des méthodes qui n'étaient pas toujours très orthodoxes, paradoxe, mais qui avait de bons résultats. Et il est lié aussi à, voilà, à un objet un peu inquiétant qu'on a dans les archives de l'Entrecave et qui, voilà, qui raconte une légende, qui lit Maître Gonin, Vidocq et probablement aussi Gérard de Nerval.
Ah, j'espère que nous la découvrirons un jour. Il a beaucoup écrit aussi ses mémoires, comme Mademoiselle Lenormand, on peut les trouver aisément sur Internet pour les auditeurs que ça intéresse. Dans un instant, on continue nos déambulations dans le réel truqué, soit dans sa meilleure configuration, juste après MGMT, Little Dark Age, dans la playlist de France Inter. Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de l'illusionniste Antoine Leduc. La musique du film L'heure du loup d'Ingmar Bergman, composée par Lars Johan Verlé, afin d'installer une ambiance propice à l'évocation du remède suivant. Il s'agit de votre centre du monde, un musée d'histoire surnaturelle à Bruxelles, le Surnatéum. Alors de quoi s'agit-il et comment l'avez-vous découvert ?
Je l'ai découvert un peu par hasard parce que je m'intéressais au sujet, bien sûr. Et puis l'actuel conservateur est devenu mon professeur et en plus un très bon ami maintenant.
Christian Schellmann,
voilà. Donc le Surnatéum, c'est le musée d'histoire surnaturelle. À ma connaissance, c'est la plus importante collection d'objets magiques dans le monde. Et donc c'est un musée privé, donc qui est caché quelque part à Bruxelles et qui prend la forme d'un cabinet de curiosité.
Et on peut prendre rendez-vous, on peut écrire sur le site du musée, il n'y a pas d'adresse ?
Non, il n'y a pas d'adresse, on vous donne l'adresse quand vous avez un rendez-vous pour aller le visiter, parce que ça se visite, mais uniquement sur rendez-vous.
Ouais. Et alors on trouve, j'ai un peu regardé sur le site, qui est fascinant, un coffret de tueurs de vampires, des osselets divinatoires, il y a plusieurs départements, le département des antiquités hantées, de cryptozoologie et de tératologie, des prophéties et des apocalypses.
Ben, il y a de tout. En fait, l'un des buts de ce musée, c'est d'étudier les différentes définitions qu'a pris le mot magie à travers les âges, dans toutes les sociétés et sur toutes les parties du globe. En fait.
Alors, il y a deux objets en particulier qui ont retenu mon attention. C'est le bâton trembleur d'Échou. Alors, c'est pour la divination judiciaire. En gros, si j'ai bien compris, on mettait à l'époque les accusés dans une sorte de carré où on plaçait le bâton. Et si le bâton se mettait à trembler et à tabasser les accusés, ça voulait dire qu'ils étaient coupables.
Oui, absolument. Alors, Échou, c'est une des divinités vaudou. Et ce bâton trembleur, c'est comme une canne. Donc au sommet duquel se trouve la représentation d'Échou, qui était un trickster en fait.
Un trickster ? Et
le trickster, c'est l'arlequin, c'est celui qui fout le bazar en fait.
Ah oui, mais ça se voit.
ça se voit. Et il a donné d'ailleurs, il ressemble beaucoup au petit personnage de Sonic dans les jeux vidéo. La représentation de Sonic, c'est
Échou. Le hérisson ?
Ouais, le hérisson, c'est Échou en fait, avec cette crête.
Alors là, vous nous livrez un scoop. Et alors le bézoar, qui se retrouve aussi dans le catalogue de l'exposition Mélancolie, puisque le bézoar, c'est un remède à beaucoup de maux, dont la mélancolie. Et c'est une petite chose qu'on trouve dans les estomacs.
Dans l'estomac des chèvres, oui, c'est une pierre magique qu'on trouve dans l'estomac de certaines chèvres en Inde. Et alors ces bézoars étaient donc très recherchés par les médecins européens à partir de la Renaissance et se vendaient à un prix égal à celui des pierres précieuses de l'époque, quoi. Et on pensait que le bézoar était réputé guérir des empoisonnements. Donc on pouvait le porter sur soi pour se prémunir des empoisonnements, ou alors quand on avait un doute sur le contenu d'un verre, on trempait le bézoar dedans et c'était censé purifier le liquide. Alors ça fait rire quand on le raconte comme ça, parce que ça paraît tout à fait improbable. Mais il y a des pharmaciens, je crois, qui ont fait le test. Et en fait, la matière du bézoar, qui est en fait une concrétion qui se fait dans l'estomac des chèvres, transforme, ça fonctionne avec l'arsenic, donc le bézoar transforme l'arsenic en un dérivé de l'arsenic qui n'est plus toxique. Donc il y a un fond de vérité dans toutes ces légendes qui entourent le bézoar. Ouais.
On énumère des merveilles, et à nouveau, quand on se pose la question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, finalement, est-ce que cette question a de l'importance, dans le sens où ça apporte tellement de poésie ?
Oui, alors la question du vrai ou du faux, finalement, ça enferme dans un raisonnement binaire. Et quand on parle de magie, ça va bien au-delà. Et ce qui est intéressant quand on étudie tous ces phénomènes, c'est le fait que des gens y aient cru suffisamment fort à une période donnée et que ça ait modifié leur comportement sur le plan social et que ça ait donné lieu à des comportements particuliers ou à la production d'objets particuliers. Et étudier tous ces phénomènes, c'est ça qui est vraiment passionnant.
suite numéro 5 en mi mineur de Bach, interprétée par Carole Serrazi, sur laquelle on peut danser allègrement le passe-pied, cette danse de cour du XVIIe siècle affectionnée par Madame de Sévigné. L'activité qui vous enchante, Antoine Leduc, c'est de pratiquer les danses anciennes et les danses en couple. Donc les danses anciennes, ce sont donc celles pratiquées entre le Moyen-Âge et la Première Guerre mondiale. J'imagine que ça implique le port de perruques et de costumes. Est-ce que je me trompe?
Oui,
je vous ai un peu espionné sur Internet.
Mais ça dépend des périodes représentées. Et puis ça dépend aussi dans quel cadre on danse.
Vous allez au château dans des bals?
Oui, quand c'est dans le cadre d'une reconstitution historique, oui, ça implique effectivement de porter le costume qui correspond à la période. Si c'est le XVIIIe siècle, effectivement, il faut porter un habit à la française, des bas et puis une perruque. Quand c'est plus tard, pendant le XIXe siècle, on porte l'habit. Le frac. Oui, il faut s'adapter. Oui.
Et vous le faites souvent, vous avez pris des cours?
Oui, alors il y a des associations qui remettent au goût du jour ces danses anciennes et qui, ben oui, on peut les apprendre. Et certaines de ces associations organisent des bals dans des endroits qui sont toujours des endroits auxquels on n'aurait pas accès sans cette occasion-là. Donc c'est toujours agréable, oui, d'avoir accès à une salle de bal dans un château, dans un monument qui n'est pas ouvert au public, l'espace d'une soirée, en étant en costume, en dansant au son d'un orchestre vivant. C'est vraiment un voyage dans le temps. Oui.
J'ai l'impression que l'aura de la chevalerie vous accompagne un peu partout, Antoine Leduc. Est-ce que vous vous sentez de votre temps?
Oui, parce qu'il faut vivre avec son temps, mais je pense à une citation de Cagliostro qui disait « Je ne suis d'aucune époque ni d'aucun lieu ». Et ouais, je pense que je suis un peu multipériode, on va dire. Enfin, je me plais dans différentes périodes. Peut-être je cherche aussi un peu à m'échapper dans d'autres périodes que la nôtre. Ouais.
On vous garde un tout petit peu au XXIe siècle, mais ça ne durera pas longtemps, je vous rassure. Dans un instant, il sera question d'esprit et de répartie dans l'histoire, juste après « Over the Rainbow » de Judy Garland.
I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Somewhere over the rainbow, the rainbow, why then, oh, why can't I?
Remède à la mélancolie sur France Inter, émission de survivance à Noël avec l'illusionniste Antoine Leduc.
J'aime. Il m'interdit le rêve d'être aimé même par une laide. Ce nez qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède. Alors moi j'aime qui ? Mais cela va de soi. J'aime, mais c'est forcé. La plus belle qui soit.
Le comédien Jean Piat, interprétant Cyrano à la Comédie Française en 1964, c'est aussi l'un des auteurs de votre onguent littéraire, Antoine Leduc, et c'est accessoirement aussi la voix française du magicien Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, donc ce n'est pas anodin. Votre livre, c'est « Vous n'aurez pas le dernier mot » de Jean Piat et du politologue Patrick Vachman. Il est paru en 2006 chez Albin Michel, et dedans, les auteurs se sont amusés à rassembler 200 réparties. Je vous propose qu'on en lise... Chacun, voilà, en ping-pong.
C'est parti.
Allez-y.
À 98 ans, Fontenelle restait toujours vert par le corps et l'esprit. Au cours d'une soirée, il se précipite pour ramasser à terre un éventail qu'une belle vient de laisser tomber. Malgré quelques difficultés à se baisser, il souffle avec fierté. « Veuillez m'excuser, madame, je n'ai plus 80 ans. »
Alors moi, je me suis permis de les résumer un peu. Alexandre Dumas sort de chez un ministre et rencontre un ami qui lui demande comment s'est passé le déjeuner. Et Dumas répond « Oh, fort bien, mais sans moi, je m'y serais cruellement ennuyé. »
Le prince de Conti était réputé pour sa laideur, sa femme l'était pour son esprit. À la veille d'un voyage, le prince prévient son épouse sur le ton de la plaisanterie. « Madame, je vous recommande de ne pas me tromper pendant mon absence. Monsieur, vous pouvez partir tranquille, je n'ai envie de vous tromper que lorsque je vous vois. »
William Gladstone dit à Benjamin Disraeli « Vous finirez pendu ou miné par une maladie vénérienne. » Disraeli répond « Cela dépendra, cher ami, qui j'aurai épousé, vos principes ou votre maîtresse. »
Clémenceau vient d'écouter un jeune parlementaire talentueux. Il le félicite à la fin de la séance. « Beau début de carrière, jeune homme. Venez sur mon cœur. » Réponse du député « J'en serais flatté, monsieur le président, mais j'ai horreur du vide. »
Une dame très laide minaude devant Groucho Marx et s'exclame « Ah, que j'aime la nature !» Groucho soupire « Vous avez bien du mérite, madame, après tout ce qu'elle vous a fait. »
Monsieur Disraeli, quelle différence faites-vous entre un malheur et une catastrophe ? Demanda un jour la reine Victoria à son premier ministre. « C'est très simple, madame. Gladstone tombe dans la Tamise, c'est un malheur. On le repêche, c'est une catastrophe. »
Un auteur médiocre s'adresse aux libertins du XVIIe siècle, Saint-Évremond. « Monsieur, je voudrais travailler un ouvrage auquel personne n'aurait travaillé et ne travaillera jamais. » Et Saint-Évremond répond « Eh bien, travaillez à votre éloge, monsieur. » Une dernière.
Le danseur Pécourt allait très souvent chez Ninon de l'Enclos. Le comte de Choiseul aussi. Ce salon de Ninon devenant un véritable carrefour, les deux hommes finirent par se croiser. Ce jour-là, Pécourt portait un vêtement assez semblable à un uniforme. Aussi, le comte lui demanda-t-il ironiquement « Je serais curieux de connaître le corps dans lequel vous servez. Monseigneur, celui-là même où vous servez depuis longtemps. »
Vous n'aurez pas le dernier mot, petite anthologie désinvolte des plus belles réparties. Alors, il est paru en 2006. Moi, je l'ai trouvé à la bibliothèque municipale. Donc, j'invite tous les auditeurs à faire de même. Je suis sûre qu'il y est. Certaines citations sèment le doute quant à leur véracité.
Oui, je pense que certaines sont un peu aussi entrées dans la légende. Enfin, ce sont plutôt des traditions orales parfois que des faits véritablement avérés, peut-être. Oui.
Je pense à Littré, par exemple, qui trompe son épouse et elle le trouve en flagrant délit d'adultère et elle s'exclame « Ah monsieur, vous me surprenez !» Et Littré aurait dit « Non madame, c'est nous qui sommes surpris, vous êtes étonnée. » Voilà, bon. Alors, il y a deux autres citations que vous avez choisies, Antoine Leduc, des citations pansement qui ne figurent pas dans le livre. Elles vont toutes les deux dans le même sens. C'est « Qui ose gagne » et « J'ose tout ce qui sied à un homme qui n'ose plus n'en est pas un ». Ça s'est tiré de Macbeth de Shakespeare. Alors, « Qui ose gagne » aurait une origine militaire. C'est la devise du 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Et c'est la traduction de la devise des Special Air Service britanniques « Who dares win ».
Oui, et alors, il se trouve que j'ai été militaire dans une autre vie, et quand j'étais en formation militaire, c'était aussi la devise de notre section, qui ose gagne, et on l'a mise en pratique à certaines occasions, et ça marchait plutôt bien. Ouais.
Vous aviez aussi le chant qui va avec ?
On avait plusieurs chants, on n'avait pas de chant spécialement lié à cette citation. Non.
Vous êtes du genre à oser ?
Ouais, je pense que je le fais pas assez, mais les rares fois où j'ai osé, ça a plutôt bien porté ses fruits. Ouais.
Parce que Macbeth, par exemple, il a peut-être un peu trop osé, ça a terminé dans un bain de sang et de folie.
Ouais, c'est toute la question de savoir doser, de savoir quand oser, avec qui oser. Et jusqu'où oser, je pense.
Ouais, c'est un peu le résumé de toute l'existence, en fait. Il n'y a pas vraiment de solution.
Ouais, il faut trouver le juste milieu. Je pense que l'expérience est le meilleur conseiller dans ces cas-là.
L'écrivain et scientifique Fontenelle, qu'on a cité tout à l'heure, disait « Il faut oser en tout genre, mais la difficulté, c'est d'oser avec sagesse. »
Voilà, c'est bien résumé.
C'est bien résumé et il ne se mouille pas trop. Extrait de l'opéra bouffe Orphée aux Enfers d'Offenbach, repris par Johann Strauss, interprété ici par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par Georges Prêtre. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, ça, Antoine Leduc ? C'est un bonus dans vos remèdes. Vous avez dansé dessus comme un fou, j'imagine.
Oui, alors ça m'évoque justement toute cette société parisienne du 19e siècle, qui, notamment sous le Second Empire, qui est un peu la société de la fête et de l'amusement. Avec tous ces bals, tous ces airs justement qui sont très très festifs, très très parisiens en même temps, et qui ont été repris et extrêmement dansés, pas qu'à Paris, partout dans le monde d'ailleurs. Ça, ce qu'on vient d'entendre, c'est l'extrait d'un quadrille français. Quadrille français, c'est une danse de salon de l'époque, mais qui a été dansée partout dans le monde, et c'est l'une des danses les plus dansées dans le monde. Pendant tout le 19e siècle.
Oui. C'est le French Cancan ?
Le French Cancan, c'est le nom qu'on lui a donné après, mais le quadrille français, c'est pas du French Cancan. Le Cancan, c'est le chahut de l'époque, c'est les jeunes de l'époque qui dansaient en retroussant leurs jupes, en faisant des grands écarts, enfin des choses absolument pas bien vues dans
loubards.
Les salons parisiens. Quasiment les loubards de l'époque.
Vous avez dansé sur cet air ?
Oui, on va danser sur ça.
Alors, ça se danse en couple ?
Oui, ça se danse en couple. Bon, là, dans le cadre d'un quadrille français, c'est des danses de couple. Alors, c'est des danses qui sont assez codifiées. Donc, il y a des figures qui sont les mêmes, quelle que soit la musique. Mais ce sont des danses qui sont faites à l'époque pour croiser des gens, pour se rencontrer, pour discuter, pour sociabiliser, en gros, comme diraient les Anglais.
Réhabilitons le quadrille. Merci beaucoup, Antoine Leduc, d'être venu dans cette émission.
Merci, Eva.
Vous préparez un spectacle, performance, et comme tout ce qui vous concerne est énigmatique, on peut vous écrire pour en savoir plus, par exemple sur le mail qu'on trouve sur le site de l'Entrecave, qui sera alimenté au fur et à mesure de l'avancement de la classification des archives. On mettra le lien sur le site. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à part ce mail. Vous faites aussi des soirées privées, vous faites aussi des tours de magie farfelus, fous et tout ça, mais il faut prendre contact avec vous. Chers auditeurs, la programmation musicale et les remèdes sont sur le site de l'émission. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. J'espère que vous êtes aussi réjouis qu'une autruche dont la vie intérieure est une samba. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h pour se préparer à l'encore plus terrible 31 décembre en compagnie du dessinateur et auteur de bande dessinée Mathieu Sapin. Je penserai à vous ce soir si vous ne fêtez rien ou que la compagnie venait à vous manquer. N'oubliez pas que les cinémas sont ouverts et qu'une profusion de très bons livres ne demande qu'à vous fréquenter.